Actu SF, les podcasts.
Donc bienvenue à tous donc pour cette table ronde qui a pour thème, attention, j'ai mis tous les genres dans mon shaker à imaginaire et j'ai repoussé les frontières. En voilà un thème qui est intéressant. Alors, pour parler de ce thème, donc autour de cette table, nous avons Morgane Cossarieux, Victor Fleury, Léo Henry et Morgane of Glencoe. Alors, Morgane Cossarieux, donc romancière, essayiste, traductrice, et qui a publié un certain nombre de romans comme Dans les veines, Rouge toxique, Le syndrome de Pan, et plus récemment, donc Vertèbre, qui vient de sortir en 2021. On va y revenir après. Alors, on ne va pas mettre les deux Morganes parce qu'on va se mélanger après. Victor Fleury, donc, qu'on vient d'entendre sur la table ronde précédente, mais qui notamment a écrit le cycle de fantasy La Croisade éternelle, cycle de fantasy antique. Avec un troisième tome, donc La Reine prêtresse, qui vient de sortir aussi en 2021. Donc on y reviendra après. Ça, c'est mes petites questions. Alors Léo Henry, là aussi, qui a finalement écrit pas mal de choses entre Le casse du continuum, La panse, donc avec des choses un peu variées. Entre la fantasy, la SF, aussi du scénario de BD, du jeu de rôle, et avec une publication récente, notamment Tessel, un roman de fantasy avec une quête initiatique. Et Morgane of Glencoe, donc, qui est à la fois écrivaine, mais également musicienne. Et donc on verra que ça prend une place particulière, notamment dans La Dernière Geste, qui a pour l'instant 3 tomes parus et apparemment 5 tomes prévus, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors justement, tiens, puisqu'on s'est arrêté à Morgane, donc quelle est la thématique justement de La Dernière Geste et justement le lien entre l'écriture et la musique, puisque La Geste, c'était en fait une pièce historico-épico-légendaire chantée. Donc, c'est important dans la manière dont c'est écrit.
Oui, de fait, puisque moi, j'écris pas... Enfin, techniquement, j'écris des tomes, mais en fait, ça s'appelle chant. Donc, ouais. Il y a premier chant, deuxième chant, troisième chant. Et il y a aussi une chanson d'hiver, d'ailleurs. Mais il y a un Christmas Carol. Parce que... Je sais pas. Donc, oui, en fait, l'idée, c'était de... je suis musicienne professionnelle, genre c'est mon autre métier. Et en fait, du coup, dans La Dernière Geste, la seule forme de magie qui existe, qui soit de la magie au sens où les gens dans cet univers-là la considèrent comme telle, c'est la musique. Voilà. Donc de fait, on a des gens qui, parce qu'ils maîtrisent la musique, en fait, maîtrisent la magie. Ce qui est cool, je crois. Voilà.
Et alors donc dans le tome 1, on a ce personnage de la princesse Yuri. Alors on est dans un monde où les hommes craignent les fées et ils les détestent. Voilà. Ouais. Et donc cette princesse Yuri qui est à l'autre bout du monde est rappelée dans son pays et on lui apprend qu'il va falloir qu'elle épouse l'héritier du royaume de France.
Oui, alors techniquement en fait elle part du Japon.
Ouais.
Ouais, en fait, son père est ambassadeur en France, son père est japonais, pourtant il s'appelle Nekohei Mayuri, donc ouais, ça n'aidait pas à être française. Et elle part du Japon pour rejoindre son père, qui est ambassadeur en France, et à l'arrivée, on lui apprend qu'elle est fiancée à Louis-Philippe de France, en sachant qu'on est en 1995, chercher les rats.
Oui, parce qu'on a finalement un espèce de monde uchronique où le royaume de France existe toujours.
C'est une uchronie dystopique steampunk fantasy.
Absolument.
Avec des légendes celtes dedans.
Bah,
c'est bon, j'en ai assez des genres dans
non,
le
mais voilà pourquoi on est sur le shaker de l'imaginaire, absolument. Et alors donc justement, on avait ce tome 1, ensuite il y a, donc dans le temps du teu, c'est quelque chose qui se passe avant.
Oui, c'est la chanson de Noël.
Voilà, Et on est dans le troisième tome, finalement, on retrouve la princesse Yuri avec le fait que finalement elle a l'air de décider de qu'elle va peut-être s'enfuir et elle se.
Non, elle va pas décider qu'elle va peut-être s'enfuir, elle le sait très très bien.
Enfin,
dès le tome 2, elle
oui,
se rebarre, genre dans le premier chapitre.
Effectivement,
hein,
effectivement.
Elle s'en va et elle revient. Mais
on essaie de la rappeler à son devoir, et donc justement, qu'est-ce qu'elle va faire pour arriver à se tirer de cette situation-là? Parce qu'il y a notamment la présence du rail, il y a.
Oui, il y a un train géant aussi.
Voilà. Donc je voudrais un petit peu expliquer pour donner envie aux gens de comprendre et puis de
Mais
peut-être
même
d'aller
moi, je comprends
lire.
pas tout, hein. Non, vraiment, même moi, des fois, mes personnages font des trucs. Ils sont sauvages, ils font ce qu'ils veulent un peu. J'essaie d'expliquer, c'est compliqué. Yuri est un personnage qui, en fait, la dernière geste, c'est l'histoire de Yuri, pour de vrai. S'il y a un personnage principal, c'est elle. Je suis pas sûre que les autres soient vraiment secondaires, mais en tout cas, elle, c'est le personnage qu'on va suivre du début à la fin. Et au début de l'histoire, c'est un personnage qui se connaît pas. Et en fait. Sa geste à elle, c'est d'apprendre à se connaître elle-même. Voilà. Et alors, cette s'enfuit, c'est les très nombreuses rencontres qu'elle va faire, et les très nombreuses sociétés qu'elle va rencontrer, et le vaste bazar qui est sa vie aussi, qui vont faire qu'elle va devenir elle-même.
Si,
si,
ça paraît clair, ça paraît clair. Victor. Donc là, on est sur un univers complètement différent, puisque là, on est à travers la croisade éternelle. On se retrouve sur la Mésopotamie, les mythes et les dieux mésopotamiens, et avec tout un système, une intrigue où, dans le tome 1, on a cet esclave hein, qui est lié en fait à l'héritier de l'empereur. Enfin, en tout cas au prince héritier. Et donc, il faudra nous expliquer ce que c'est que ce système d'esclave lié, justement. Alors, bon, ça fait un peu redite par rapport à la table ronde précédente, mais.
Non, non, pas de souci. Alors, effectivement, tu l'as bien dit, on est dans une ambiance mythologique. J'aime bien dire mythologie au pluriel, parce que c'est la mythologie mésopotamienne, mais aussi mythologie égyptienne et grecque. Tu parlais de Checker, ben voilà, hop, voilà, on mélange tout ça et on garde que ce qui nous intéresse. Donc on a une grande cité en plein désert, une cité blanche qui s'appelle Ubouk. Les gens de cette cité sont persuadés que sous le sol, il y a un dieu maléfique qui se répand un peu comme une nappe de pétrole. Et si il sort quelque part, eh bien c'est la fin du monde. Donc il faut absolument faire la guerre et imposer sa religion aux autres pour purifier la terre et les habitants. Alors est-ce une excuse facile pour conquérir les autres ou est-ce vrai? Ça fait partie de l'intrigue du livre. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les membres de la famille royale qui prétendent descendre des dieux ont effectivement des pouvoirs. Et Akourgal, qui est le jeune héritier, alors lui, il est intelligent, il est beau, mais il est tellement persuadé qu'il va devenir roi, qu'il fait une énorme erreur, je ne vais pas vous la dire exactement, mais il se retrouve dépossédé de son héritage, et lui, il veut partir à la guerre pour montrer à tout le monde que c'est lui le chef et qu'il finira par être roi. Mais en fait, c'est pas lui le héros de cette histoire. Ce sont ses esclaves, parce qu'en fait, il est lié à chacun de ses esclaves par des malédictions. Enfin, ça fait partie des pouvoirs de sa famille, des malédictions qu'il crée mais qu'il ne peut pas défaire. Et donc, l'héroïne, Nisaba, en gros, elle ressent physiquement tout ce que le prince ressent, et inversement. Donc, par exemple, le prince se coupe, elle a mal, le prince mange du raisin, elle a l'impression de manger du raisin. Il a d'autres esclaves, il a un esclave de force qui va s'entraîner jour et nuit, donc le prince est musclé, absolument magnifique, alors qu'il fait rien du tout. Il a un esclave de mémoire qui va aller apprendre des choses à la grande bibliothèque, des langues étrangères, des traités de stratégie. Tout va dans la tête du prince, mais c'est un esclave de mémoire, donc même sa vie personnelle va dans la tête du prince. Donc d'ailleurs, ce personnage est homosexuel. Et donc du coup, le problème du prince, c'est qu'il ne veut absolument pas se souvenir de nuits torrides avec des hommes, donc il lui interdit d'avoir son propre, voilà, ses propres relations. Et du coup, en fait, c'est cette magie alors qui peut apparaître comme tordue, mais qui a son utilité. Hein. Il n'a pas choisi ses esclaves au hasard. Et d'ailleurs, enfin, c'est un peu l'intrigue du livre, c'est de savoir pourquoi il a choisi ses esclaves et pourquoi il a tissé ses liens qui datent parfois de l'enfance, voire ou de l'adolescence. Et en fait, quand il part à la guerre, eux, ils sont obligés de le suivre. Parce que leur gros problème, c'est que si le prince meurt, ils meurent tous. Parce qu'ils sont tous liés par cette malédiction. Ils n'ont absolument aucune envie de mourir. Hein. Ils ont leur propre projet, ils ont tous leur petite personnalité, ou leur grosse personnalité. Et donc, ils veulent sauvegarder le prince, alors qu'il part à la guerre un peu à poil, parce qu'il Il sait pas être un général, il sait pas être un soldat. La famille royale, il y a beaucoup de gens qui le détestent. Et en plus, quelqu'un tente de l'assassiner avec une magie royale qui est censée être réservée aux prêtres et aux membres de la famille royale. Et comme par hasard, personne n'a rien fait. Donc, les esclaves vont avoir un peu du mal à le garder en vie. Mais il va falloir, parce que sinon, eh bien, eux aussi disparaîtront. Voilà. Donc là, je vous ai parlé du tome 1. Mais du
coup, ouais, ouais. Donc, bah, justement, Nisaba, elle quitte la capitale puisqu'elle l'accompagne. Voilà, et elle laisse derrière elle son fils. Et donc, on voit justement dans le tome 2. Qu'à un moment donné, bah, finalement, elle se retrouve seule. Enfin, elle n'a qu'un seul désir, c'est de retourner à la capitale pour retrouver son fils, mais malheureusement, elle n'y est plus.
Alors, comme je disais à la table ronde précédente, en fait, je me suis rendu compte que mon livre, enfin ma trilogie, c'était sur la famille. Et disons, vous savez, des fois, en auteur, on a des thématiques qui nous transcendent. Bah, là, c'est typiquement le cas. C'est-à-dire que ce groupe de gens qui sont obligés de cohabiter, qui se connaissent depuis l'enfance, en fait, c'est une famille, une petite famille dysfonctionnelle, de gens qui parfois se détestent, mais qui ont toujours été obligés de cohabiter. Donc c'est des frères, des sœurs, des amants qui vivent ensemble. Et du coup, j'ai complètement oublié ce que tu m'avais demandé.
Non, je disais que finalement, elle repartait pour essayer de retrouver son fils, qu'elle ne retrouve plus.
Alors l'enjeu de Nisaba, en fait, c'est simple. C'est le triptyque infernal pour une femme et pour un homme aussi. Hein. C'est elle a de très fortes relations avec son père, son fils et ses amants. Et en fait, c'est l'histoire de Nisaba, de son père, de son fils et de ses amis. Comment en fait on assume sa famille et enfin plus qu'assumer, comment on se dépatouille de sa famille.
Mais dans la trilogie, il y a aussi toute une réflexion. Je trouve que les personnages ils sont intéressants parce que il y a quelque chose qui tourne autour du bien et du mal, des choses qui sont pas manichéennes et où finalement une action qui peut être mauvaise, est-ce qu'on peut la justifier par de bonnes raisons? Ou au contraire, est-ce que quelque chose qui est bien, par exemple, bah, retrouver son fils, est-ce que ça peut se faire à n'importe quel prix, y compris des pires horreurs ?
Alors, je te remercie vraiment de mettre le doigt dessus, parce que c'est le cœur du livre. C'est le bien et le mal. On ne peut pas vraiment dire qu'ils existent dans ce monde, puisque tous les personnages sont gris, voire gris foncé. Hein. Typiquement, au début, on se dit, bon, ben voilà, la situation est claire. On a une esclave qui est sous l'emprise d'un prince, qui est plus puissant qu'elle, qui la domine, qui l'utilise parce que, du coup, ben, il ressent ce qu'elle ressent et inversement. Mais en fait, pourquoi il y a cette relation? Pourquoi cette malédiction inutile pour les deux, et même gênante, hein, a existé? Il y a une raison. Et quand on la découvre, on se dit qu'en fait, les choses ne sont pas si simples. Et même avant de la découvrir, on voit qu'elle, qui est une esclave, qui normalement est une victime, elle refuse complètement ce statut. Elle utilise tous les leviers qu'elle a à sa disposition pour renverser la situation. Et le prince, qui est dans une position très viriliste, très voilà, je serai le roi, je suis un guerrier, je suis... En fait, petit à petit, on le voit s'effondrer de son piédestal. C'est une illusion qu'il donne. Il est victime de la façon dont on traitait sa sœur, sa mère, de la façon dont du manque de confiance, la confiance qui ne lui a jamais été accordée. Et donc, on a une transition comme ça où l'héroïne plutôt féminine dans vous savez, la caricature qu'on fait de la féminité, en fait, devient de plus en plus masculine, alors que le prince, au contraire, dévoile sa féminité. Et moi, c'est ce qui m'a semblé, c'est ce qui est le plus important dans mon livre.
Et alors, si on parle de l'homme électrique et l'empire électrique, là, on est sur complètement autre chose, puisqu'on se retrouve finalement dans une espèce d'Europe uchronique, enfin d'Europe, un empire avec Napoléon et puis les Russes.
Alors, tout à fait, je dis toujours que j'ai pas été original dans la création de l'univers, et c'est mon traitement que j'ai été original. C'est-à-dire qu'un univers où Napoléon a gagné ses guerres et où donc l'empire français règne sur l'Europe, c'est entre guillemets assez classique. Ce qu'il est assez moins, à mon sens, c'est de prendre des personnages de la littérature qu'on connaît et de les uchroniser. C'est-à-dire que vous avez Sherlock Holmes, et bien Sherlock Holmes qui a grandi dans cet univers, il n'est pas du tout le même. C'est toujours Sherlock Holmes, hein, c'est un génial détective, il est incroyable, mais il a passé 10 ans en prison parce qu'il a participé à la résistance des Anglais contre les Français, dans les réseaux de Mycroft, son frère. Donc il a été enfermé 10 ans, il ressort, il est encore plus drogué et aigri que le vrai Sherlock Holmes, il ne connaît pas Watson, donc c'est vraiment une loque, hein, parce que Watson c'est un peu son, normalement celui qui l'ancrage. Hein. Et donc du coup on lui demande en plus de travailler pour son pire ennemi, l'empereur Napoléon alors 4, ça dépend de l'époque dont on parle, parce que j'ai plusieurs livres dans cet univers, donc on change de son empereur. Et donc il est chargé de traquer un mystérieux résistant qui échappe à la police française, alors que lui-même a été un résistant, et il a absolument pas envie de traquer ce résistant, mais il est obligé, parce que sinon c'est retour prison. Et ce qui est amusant, du coup là c'est pas du tout l'homme électrique, c'est l'empire électrique, c'est la première histoire. Ce qui est amusant, c'est qu'en plus son opposant, cette némésis dont on connaît pas le nom, c'est bien sûr un autre personnage de la littérature populaire qui est réutilisé, parce qu'en fait j'utilise énormément de personnages connus en les uchronisant comme ça. Hein. C'est l'intérêt d'univers, dans le sens.
Oui, et du coup c'est pas du tout le même genre d'univers, effectivement, donc là ça veut dire effectivement la capacité à aller, mais ça vous touche, c'est des choses que vous savez faire, et je vais aussi vous interpeller là-dessus. Comment est-ce qu'on passe d'un univers à l'autre? Mais on y reviendra après. Là, je voulais interpeller Morgane Cossarieux. Donc, toi notamment, tu as beaucoup travaillé sur la figure du vampire, hein, dans un certain nombre de tes écrits. Et puis après, on parlera de vertèbres, donc où là, c'est encore complètement autre chose. Et alors, tu disais notamment, ce sont des univers qui sont extrêmement sombres, et tu disais, en gros, qu'il n'y a pas de vampires gentils. Donc, tes vampires sont extrêmement sanguinaires, extrêmement méchants. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors, j'ai commencé avec Dans les veines, et c'est sorti vraiment à l'époque Twilight. Donc, j'étais vraiment plutôt fan des textes d'Anne Rice, des films des années 80, et je voulais revenir à ça. Moi, j'étais personnellement blessée quand j'étais assez jeune, du coup, j'étais pas blessée, quoi. J'avais un amour du vampire qui faisait que non, on est en train de me le déformer, ça va pas du tout. Et en réaction, bah, j'ai voulu écrire totalement l'inverse et revenir à des vampires. J'ai pris vraiment le modèle Twilight et j'ai fait complètement l'opposé. Donc, des vampires qui se voient dans la crasse, qui puent, qui massacrent à tour de bras, qui vivent dans des squats. Et puis j'ai repris cette idée de la romance avec une adolescente pour la pervertir au maximum et pour montrer qu'on ne peut pas tomber amoureux d'un vampire sans en subir les conséquences. Ça ne finira pas par un bon mariage. Voilà.
Et alors, bah, finalement, puisqu'on est dans des choses où on est dans des univers un peu glauques ou des choses, bah, finalement, on arrive sur Vertèbre. Donc, Vertèbre qui vient de sortir, où là, c'est en fait l'histoire d'un enfant qui a été kidnappé, qu'on retrouve quelques jours après, mais il a changé.
Oui, il a une vertèbre en plus.
Et oui, et pas que, parce qu'il a perdu beaucoup de poids.
Voilà.
Et donc, qu'est-ce qui lui arrive en fait à cet enfant? On va essayer pas trop de divulgacher, mais bon.
Voilà, alors ça, il faut lire le livre, hein, pour le découvrir. Mais alors, moi, ce qui m'intéressait de parler dans Vertèbre, c'est que je voulais parler de transformation du corps et de body horror. Vraiment, le body horror, c'est un genre que j'ai toujours aimé. J'ai toujours été fan du travail de Cronenberg. Et en plus, là, j'ai de la chance parce que le body horror est vraiment remis au goût du jour avec le Titan de Julien Ducournau qui a eu la Palme d'Or et qui partage bizarrement beaucoup de thèmes avec Vertèbre, donc c'est plutôt bon signe pour moi, ça. Et pour revenir à cette thématique du mélange des genres, en fait, Vertèbre, ça parle de body horror, donc il y a vraiment le côté transformation du corps qui va passer par la transformation de ce petit garçon en monstre, un monstre qui appartient à un certain bestiaire fantastique, et j'imagine qu'on peut deviner lequel. Toi, t'as deviné, toi? Ah ouais.
Mais derrière cette transformation, il y a aussi la transformation de l'adolescence, finalement.
Voilà, oui. Alors ça, c'est vrai que la transformation de l'enfant en adolescent, la puberté, c'est quand même un thème qui a souvent été repris, hein, dans les œuvres qui parlent de loup-garou, hein. Disons le mot, Ginger Snaps, par exemple, qui le fait très bien. Mais alors moi, je voulais... En effet, ce petit garçon, c'est une métaphore de sa transformation en adolescent, mais surtout, la transformation, c'est un thème qui va parcourir tout le roman, et dans plusieurs personnages, ou même plusieurs... alors, ça se passe dans les années 90, et par exemple, la figure du Tamagotchi va prendre beaucoup d'importance, parce qu'on a vraiment cette évolution du Tamagotchi et tout ça. Et un des personnages principaux, en fait, c'est pas forcément ce petit garçon qui se transforme en loup, et en monstre, plus même qu'en loup. C'est une petite fille qui veut devenir un petit garçon. Oui. Et donc il y a ce parallèle en fait de toutes les transformations, et c'est aussi une façon de dire que finalement une transformation d'une petite fille en petit garçon, c'est pas si grave quand on voit une transformation de Tamagotchi, une transformation de petit garçon en loup-garou.
Mais quand on voit ce groupe de trois enfants justement avec ce petit garçon qui change, et d'ailleurs ses copains acceptent, voilà, parfaitement qu'il change, entre Sacha effectivement qui ambitionne de devenir un garçon, et puis l'autre petit camarade Brahim qui lui est arabe, ils sont tous les trois finalement dans une sorte de différence. En plus, ils sont pauvres à Vieux-Boucau, qui est quand même un endroit une station balnéaire assez bourge. Et il y a aussi quelque chose qui est très très marquant, enfin, c'est, on prend une claque, hein, quand on lit le roman, c'est les univers dysfonctionnels familiaux de ces gamins. Particulièrement Marie-Lou, la mère, elle est effrayante.
Elle est horrible.
elle est horrible.
C'est quelque chose qui, en fait, J'ai toujours essayé d'écrire une horreur psychologique. Enfin, c'est pas spécialement. Ça m'arrive de mettre du gore hein, dans mes bouquins, mais c'est plus me mettre dans la tête de personnages déviants et faire des portraits psychologiques très très précis de chacun de mes personnages. Mes romans, enfin même l'histoire, souvent, bon, j'essaie quand même de faire quelque chose d'un peu structuré, mais c'est toujours des romans de personnages et des romans limite études psychologiques de quelqu'un, de la complexité d'une personne, comment une personne arrive à faire des choses atroces et parfois en pensant faire le bien. Et là, on a le cas d'une maman qui aime beaucoup trop son petit garçon, jusqu'à faire des choses vraiment peu recommandables.
Oui, absolument. C'est glaçant. Et j'ai envie de dire, à côté, finalement, la transformation du petit garçon en créature, c'est rien à côté du reste. C'est-à-dire que les vrais monstres ne sont pas où on pense qu'ils seraient.
Oui, ça, c'est vraiment une thématique que je développe dans tous mes romans.
Oui, absolument. Absolument. Alors, Léo. Donc là, Léo, c'est vraiment... à travers tes écrits, tu explores finalement plein de genres. On a l'impression que chaque projet te porte ailleurs et que tu te laisses aller sans forcément avoir des limites. Notamment, est-ce que tu peux nous parler du dernier roman, donc de Tessel, ce roman de fantasy avec une quête initiatique ?
Je peux.
Il peut le faire.
Ouais, alors sur la thématique de la table ronde, je pense que Tessel, c'est à peu près mon livre le plus normal.
Mais, d'accord,
mais
on
vous verrez. Oui. Parlons de Tessel, hein, après, qui suis-je pour juger? Tessel, c'est un bouquin de fantasy canonique, d'après moi, et donc j'avais jamais écrit de fantasy. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a écrit ma page Wikipédia, et sur la page Wikipédia, il a écrit Léon Henry est auteur de fantasy, de jeux de rôle et de science-fiction.
Ah bah donc il fallait.
Exactement, donc je me suis dit deux choses de l'une, soit quelqu'un corrige Wikipédia. Soit je corrige le réel et donc j'ai écrit la fantasy. Ça c'était relativement facile. Il y a d'autres trucs que j'aurais pas pu les faire, mais là c'est.
Ah ouais, ouais. Voilà.
Donc j'ai écrit ce livre de fantasy. Et en étant assez embêté parce que j'ai un rapport un peu compliqué à la fantasy, j'ai adoré en lire et j'aime énormément d'œuvres de fantasy, mais en fait il y a tout un pan de ce champ littéraire que je croyais qui m'intéressait pas. Mmh. Et du coup je me suis dit, si je me coltine, j'y vais carrément. Enfin, je vais princesse, empire, dragon, magie. Voilà, donc dans un format petit, parce que c'était mes contraintes donc de faire une trilogie en un seul livre et un petit livre. Mm-hmm. Et du coup, l'idée c'était quand même de subvertir, enfin comment dire, pas de subvertir, mais de réfléchir à ce qu'on attend de ce genre et d'en faire ce qui moi me satisfait en fait. Et du coup, une des raisons pour lesquelles je voulais pas vraiment aller en fantasy, c'est que j'ai un problème presque politique avec les structures narratives de la fantasy. Et donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais en utilisant exactement le même cadre et en essayant de véhiculer un autre message. Et donc du coup, sous l'apparence d'un roman initiatique d'une jeune princesse qui refuse son destin, c'est une apologie de l'anarchisme en fait, et du refus de parvenir et de comment est-ce qu'on se débrouille avec le désordre. Mmh. Voilà.
Et alors justement, à côté de ça, on trouve Hildegarde, l'histoire d'une religieuse. Histoire vraie, Hildegarde de Bingen, qui a été religieuse, scientifique, poétesse, où là, on est complètement sur un autre type de narration, finalement.
Alors, peut-être, une chose qui explique peut-être le fait que je fasse n'importe quoi, c'est que...
j'ai pas dit n'importe quoi.
Moi, je le dis volontiers. c'est que, en fait, mes orientations sont littéraires. Voilà, je peux croire très très fort à la littérature, et au point d'en faire ma vie. Et que du coup, ce qui m'emmène dans les bouquins, c'est des cadres littéraires en fait. Donc du coup, quand j'ai voulu faire Tessel, l'idée c'était de faire un bouquin de fantasy. Donc c'est presque un des espèces de projets théoriques. C'est mon gros livre sérieux. Donc
oui.
Je me suis dit, je vais faire un gros livre sérieux. Et donc voilà. Ce qu'il me fallait, c'était un sujet sérieux, donc une bénédictine du 12e siècle. Petit level sérieux. Ouais. Gros, genre j'ai passé 10 ans à le faire.
Mais c'est ça.
Tout ce qu'on.
Mais j'ai l'impression que c'est un peu ton moteur. C'est-à-dire que tu as les choses un peu pour t'amuser, puis tu as le truc sérieux derrière. Parce que j'ai entendu dire que tu travaillais sur un truc de l'Argentine des années 80, ouais, qui est ton prochain projet sérieux pendant 15 ans en fait.
Non, le premier bout de ce projet sort normalement début 2022.
Ah bah, il a été vite alors.
Ouais, mais parce que j'ai décidé, en fait, j'ai renoncé à refaire un Hildegarde. Parce que je me suis dit, si je fais ça, en fait, j'en prends pour. Que Hildegarde, j'ai mis 10 ans, mais parce que j'étais jeune et ambitieux. Ouais. Et là, si je refais ça, j'en prends 20, je pense. Donc, j'ai fait un bout, en fait. J'ai pris un petit bout du truc et j'ai dit... Ça sera peut-être déplié en plein de livres, mais pour l'instant, j'ai fait un livre... Et qui, lui-même, est extrêmement bizarre, parce que c'est un livre sur... C'est un livre totalement documenté et documentaire sur une figure spécifique de la... De la de, enfin, de, de la science-fiction argentine et de la dictature, mais en même temps c'est un livre de science-fiction et c'est un livre de voyage parce que je raconte comment j'ai fait ma documentation, etc. Donc disons que dans le n'importe quoi, enfin dans ma tentative que j'ai d'expérimenter mes outils et d'essayer de casser les choses que je crois que j'essaie de faire, c'est encore une étape en fait dans le...
D'accord. Alors à tous les quatre, comment en tant qu'auteur, quel est l'intérêt de jouer avec les codes, de basculer d'un univers à l'autre, éventuellement d'aller aux frontières des genres pour détourner par exemple les codes de la fantasy, ou jouer sur la figure du monstre, ou basculer d'un univers à l'autre, qu'est-ce que ça vous apporte, quelles sont éventuellement les difficultés, voilà, je voulais que vous me parliez un petit peu de votre ressenti par rapport à cette question-là.
Eh bon, bien, lance-toi.
Ah bon. Pourquoi c'est moi qui te parle en premier ?
Je sais pas, c'est gratuit.
Vas-y, lance-toi.
Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les codes. Et justement, c'est le fait d'aller contre les codes et de les bousiller. Ça, j'adore. Mm-hmm. C'est-à-dire que je vous raconte l'histoire d'une quête initiatique, on va saccager la quête initiatique. Moi, ce que j'adore alors on va revenir à la croisade éternelle, c'est la mythologie. Hein, la mythologie, je vous ai déjà dit, mésopotamienne et égyptienne, mais celle qu'on connaît, celle qui est vraiment fonde notre culture, en plus de la culture judéo-chrétienne, c'est la mythologie grecque, en fait. Et si vous lisez la croisade éternelle, vous allez vous dire, ah bah oui, ça c'est tel mythe, ça c'est tel mythe, ça c'est tel mythe. Et là, du coup, vous êtes sur des rails un peu tranquilles. Mm-hmm. Vous vous dites, ah bah c'est bon, je vais me laisser porter. Alors que moi, non. Mon objectif, c'est de vous dire, oui, effectivement, on est sur tel mythe. Voilà ma façon de le voir, et je vais bousiller le mythe. Parce que je vais vous montrer que, en gros, moi, je le vois d'une façon totalement différente, et voilà quelle sera ma version du mythe. Pareil, hein, l'homme électrique dont on parlait tout à l'heure, c'est Frankenstein. Mmh. C'est en fait... parce que mon homme électrique, en fait, c'est un androïde qui a été créé, il sait pas par qui, parce qu'on lui a effacé la mémoire.
Oui, c'est ça.
Il travaille pour des services secrets de Napoléon IV, qui sont vraiment qui font des choses horribles. Hein. On l'envoie assassiner des gens, infiltrer des résistants. Donc en fait, il doit arracher le visage des gens pour les mettre sur son masque de métal. L'électricité statique va maintenir en place le masque qui vous donne une apparence de vie. Et il peut trépaner les gens pour télécharger des souvenirs. Et donc du coup, petit à petit, les souvenirs des gens vont entrer en lui et vont le modifier. Mais alors lui, c'était juste une machine, enfin un enfant plutôt. Hein. Mais à force de faire ça, il va se modifier de l'intérieur. Et là, vous voyez clairement le lien avec Frankenstein, hein, qui est l'enfant hideux qui naît à la vie et qui, en fait, au contact de l'humanité, va apprendre. Ben, mon homme électrique, c'est un Frankenstein, sauf que sa trajectoire va complètement partir autre part. Et vraiment, je pense qu'il faut lire l'homme électrique avec Frankenstein en tête, mm-hmm. parce que c'est là que vous allez vous faire complètement mener en bateau, j'ai envie de dire. Mm-hmm.
moi je pars toujours du principe, en fait c'est l'un des premiers trucs, je sais plus si c'était Lionel Daoust ou Estelle Faye qui m'avait dit ça en premier, mais qui m'avait dit n'écris pas le bouquin que tu as aimé, écris le bouquin qui t'a manqué. Et l'un des grands trucs que je reprochais au bouquin de fantasy, c'était que en fait, que les personnages, c'était des personnages, c'était pas des personnes. Mmh. Et en fait, je crois que c'est le grand retour que tout le monde me fait sur la dernière geste, donc je crois que c'est vrai, parce que bon, au bout de centaines de personnes qui viennent vous le dire, il faut arrêter avec le syndrome de l'imposteur, c'est que en fait, mes personnages, c'est des personnes qui deviennent vos amis. Et en fait, le truc, c'est que ces personnes-là, elles vivent dans leur monde, mais du coup, a fortiori, leur monde, il est polyculturel. Et ça, c'est l'un des gros trucs qui se passe dans mon bouquin, c'est qu'il y a plusieurs cultures qui... il y a une princesse japonaise qui se balade au milieu de fées écossaises, quoi. C'est normal. Je vous promets que ça a un sens. Des fois, j'en doute aussi, mais ça a un sens, en théorie. Et du coup, c'était l'idée, en fait, de... En fait, quand... en général, c'est... Je fais des personnages qui sont des personnes, et ensuite, je regarde dans quel univers ils vont s'épanouir. Et après, ça donne des univers qui n'ont plus trop de sens, mais qui ont le sens que les personnages leur donnent, en fait, finalement. Et du coup, ça fait que on passe des égouts de Paris aux steppes russes sans trop avoir compris, dans un train de 2 km de long et de 10 mètres de haut, qui s'appelle l'Orient Express, mais qui est un peu plus maousse que notre Orient Express à nous. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, si les gens se rencontrent, si les personnages qui sont des personnes se rencontrent, et ben logiquement, ben, les genres, ils vont se rencontrer aussi, et les cultures, elles vont se rencontrer aussi. Et à la fin, voilà, ça donne ça. Et après, la musique est magique. Et ensuite, ça donne la dernière geste, et ça n'a toujours aucun sens, mais ça fonctionne bien.
Mmh. Léo ?
Et peut-être, alors j'ai la même réponse que mes camarades, mais peut-être que parce que, comment dire, alors si la question c'est pourquoi mélanger les choses, parce que je pense que la littérature je vais aller plus loin, je vais aller sur le terrain moral, je pense que la bonne littérature doit être une tentative d'émancipation. Enfin, c'est un truc sur la liberté, en fait, et que en fait, comme n'importe quelle forme d'art, elle contient tout ce qui fait le monde et tout ce qui fait la société, donc c'est extrêmement facile. La pente naturelle, en fait, c'est de raconter le même, et puis c'est de redire les mêmes choses, et de reproduire les mêmes systèmes, etc. Et que donc, du coup, un des efforts qu'on peut faire, nous, dans le boulot, c'est changer des trucs. Enfin, juste, et, parce que, pour le coup, c'est une expérimentation extrêmement économique. Ça demande que des efforts, en fait. Ça demande que l'effort de le faire et ensuite voir ce que ça donne. Donc ça je pense que c'est une de mes très grosses motivations. Et l'autre motivation, c'est que c'est quand même une activité très morbide d'écrire. Enfin, il se passe rien, en fait, quand on écrit. On est physiquement, on est à l'arrêt. C'est des heures et des heures et des heures de la vie qui pourraient passer à des trucs tellement plus intéressants comme faire de la musique. Enfin, tellement plus immédiatement satisfaisant. Enfin, mm-hmm. Ou danser, ou j'en sais rien, ou aller voir des gens, ou discuter.
Je tiens à signaler que faire de la musique, c'est pas immédiatement satisfaisant. Hein. C'est le nombre d'heures que je passe à faire des choses.
Peut-être que c'est une comparaison débile. Mais tout ça pour dire que du fait que c'est une activité qui est aussi peu vivante, je pense qu'il y a aussi un truc purement égoïste, que quitte à faire ça, autant être libre de faire ce qu'on veut, enfin, voilà, de ne pas se sentir soi-même prisonnier et obligé de faire un truc. Et si t'as pas envie d'écrire cette scène, ben tu l'écris pas. Et si t'as pas. Voilà.
Vous pouvez répéter la question.
Donc, justement, pourquoi aller aux frontières des genres ? Pourquoi aller. Par exemple, il y avait cette réaction par rapport à Twilight ? Mais il peut y avoir aussi d'autres motivations.
Oui, alors, pourquoi ce livre-là vertèbre, entre guillemets, la frontière des genres ? Alors, jusqu'à présent, je faisais beaucoup d'horreur pure. Et alors, dans celui-là, j'ai envie de nuancer l'horreur avec de la pop culture. Donc, c'est un roman qui se va passer à la fin des années 90, et ça va nous rappeler beaucoup d'éléments de notre enfance, pour ceux qui ont 30, 40 ans, ou de leur adolescence, pour les gens qui étaient un petit peu plus vieux. Et donc, ça va être de l'horreur, mais avec des Tamagotchi, les mini-cubs, et aussi des chansons. Le fond musical, c'est pas du métal, hein, c'est Lara Fabian, Rob Voisine. Enfin, il y a une certaine sorte de nostalgie et de tendresse, un petit peu d'humour aussi. Voilà. Et je pense que ça met bien en valeur l'horreur aussi, parce qu'on perçoit l'horreur avec des yeux d'enfant, beaucoup, parce qu'un des personnages, la plupart des personnages sont des enfants. Et ouais, c'est ça que je trouvais intéressant, ce petit côté bonbon acidulé qui vient condenser le body horror extrême.
En fait, il y a une double narration dans ce roman, parce qu'il y a effectivement le regard des enfants, il y a le regard de Marie-Lou, et là, on a la confrontation, effectivement, entre une certaine forme de naïveté des enfants qui se prennent la violence dans la tronche, et puis, de l'autre côté, les adultes qui, eux, savent parfaitement, et... En même temps, parce qu'ils sont eux-mêmes cassés dans leur tête. Je veux dire, ils ne sont pas foncièrement méchants, mais ils sont tellement abîmés par la vie que, du coup, ils reproduisent aussi de la violence. Et encore une fois, le monstre n'est pas là où on pense qu'il est.
Bah, en fait, les enfants, voyant les transformations physiques sur ce petit garçon, eux, ils trouvent ça cool parce que bon, ça l'a amaigri, il commence à avoir plus de muscles, les cheveux en bataille. Donc, tout de suite, ils pensent une petite queue qui passe. Et du coup, eux, vu que c'est les années 90, ils pensent que ça fait Dragon Ball Z. En fait, ils pensent que leur copain devient sans Goku. Donc, eux, ils trouvent ça super. Et en même temps, on a, on a le point de vue de la maman qui est déjà pas très bien dans sa tête, qui elle avait un enfant qui était déjà malade, diabétique, donc c'est vraiment la maman poule qui est toujours, qui fait très attention au moindre petit bobo qu'il a, au moindre petit symptôme qu'il a. Et au départ, elle serait presque à se réjouir qu'il ait des symptômes bizarres. C'est là, il a peut-être vraiment quelque chose, j'avais raison. Et puis au bout d'un moment, c'est elle qui va vraiment être frappée par l'horreur. Ah, oh, attention, il est en train de cracher des boules de poils, oh mon Dieu. Et je crois que ses yeux sont plus écartés qu'avant. Est-ce que je suis folle? Est-ce que ses yeux sont plus écartés qu'avant? Et c'est vraiment elle qui va se prendre l'horreur en pleine face. Mais vu qu'elle est horrible, c'est bien fait quand même qu'elle se prenne cette horreur en pleine face. Et de se prendre l'horreur en pleine face, ça va la faire aussi guérir dans sa tête et évoluer en tant que personne.
Et où finalement la transformation de l'adolescent finalement va rejeter la figure maternelle parce qu'il il va vers l'âge adulte.
Elle voulait qu'il reste un enfant, elle voulait le garder auprès d'elle.
Ah ouais, elle était effectivement, ça l'arrangeait même qu'il soit malade parce qu'elle était dans un contrôle total sur le gamin.
C'est ça, et le fait qu'il devienne un monstre, elle peut plus le contrôler, elle a plus la force de le contrôler, elle doit enfin accepter qu'il vive sa vie et de lui lâcher du lest. Et pour elle, c'est une très bonne leçon. Donc là, la monstruosité la guérit quelque part. Enfin, la monstruosité de son enfant guérit sa monstruosité.
Et est-ce que ce mélange des genres, par exemple, vous a posé des soucis? Je pense notamment par rapport au monde éditorial, où on a par exemple les libraires qui aiment bien ranger l'ouvrage dans telle case. Hein, est-ce que c'est de la fantaisie? Est-ce que c'est de ceci, de cela? Ou même l'éditeur qui peut éventuellement craindre en disant « mais ça risque de peut-être désarçonner les lecteurs » ou « les diffuseurs et les libraires ne sauront pas où mettre ça ».
Bonjour. Oui, alors bah justement, pour Vertèbre, avec mes éditeurs, on s'est demandé est-ce qu'on ne passait pas carrément en littérature générale, parce que c'est vrai que les éléments monstrueux arrivent vraiment petit à petit. Enfin, c'est vraiment du fantastique pur, dans le sens où on pose un cadre très très réel, avec des personnalités très réelles, et on amène le fantastique tout petit bout par petit bout par petit bout, parce que pour moi c'est vraiment hyper important qu'on y croit. Enfin, je veux vraiment des choses réalistes, et c'est vraiment la définition du fantastique, hein, opposée à la fantasy. Et moi vraiment je tiens à ça, et je sais qu'il y a beaucoup de textes fantastiques qui, vu qu'on connaît déjà certaines des figures classiques comme le vampire ou le loup-garou, justement on le balance comme ça, on s'en fout de l'introduire, et moi j'aime pas. Je veux vraiment qu'on n'y croise pas, parce que la figure est déjà acceptée, qu'on va pas te la mener.
Tout le temps. L'histoire de ma vie. Après, je m'en fous. Disons que, à part, en gros, les trois livres que j'ai fait chez Folio SL, qui sont Le Casse, La Panse et Tessel, qui sont effectivement un bouquin de SF, de fantastique, horreur et de fantasy, je fais que des bouquins bizarres, quoi. Et du coup, du fait que je fais que des bouquins bizarres, en fait, mes éditeurs sont des éditeurs bizarres. En vrai, que ce soit La Voix, ou Dystopia, en fait, c'est des éditeurs qui sont connus pour ça. Donc voilà, j'ai trouvé l'endroit où faire mes trucs bizarres. Et je fais mes trucs bizarres et je m'en porte pas plus mal. Mais ça a été. Enfin, au début, c'est un peu compliqué. Ouais. Enfin, ouais. Je devais dire, machin, ouais, mais c'est pas vraiment de la SF. Je dis, oui, moi j'aime bien les gens de la SF, alors j'ai un dépôt quand même. Donc publié, je fais, oui, mais quand même, c'est pas de la SF. Oui, je sais, mais c'est pas mal. Et voilà, donc maintenant j'ai des éditeurs bizarres, tout bien. Et du coup, et ces trois livres-là, c'était le projet, comment c'était mon projet éditorial, parce que c'est quand même toujours comme ça que je réfléchis. C'est-à-dire, je dis, j'aimerais bien faire un vrai livre de SF. Publier dans une vraie collection de SF et que je puisse dire j'ai fait un livre de SF, comme j'ai fait un vrai livre, un gros livre sérieux, etc. Voilà. Donc, du coup, après, l'idée c'est de faire le livre aussi pour l'éditeur, je sais pas comment dire, donc aussi. Donc ça pose pas tant de problèmes que ça parce que j'ai intégré ça comme. C'est ma façon de bosser qui me permet d'intégrer ça dans mon travail.
Peut-être qu'après, une fois que tu as un lectorat établi, les lecteurs, s'ils te connaissent et s'ils aiment ce que tu fais, c'est peut-être après un peu plus facile que quand tu es au début où tu sors des choses assez improbables et où là, en plus, tu n'es pas connu et on te dit, non, ça risque de ne pas passer.
Mais c'est absolument ça. C'est tout à fait vrai. Oui.
Morgane ?
Moi, c'est pas passé, alors j'ai triché.
Ah !
Bonjour, je suis une tricheuse. En fait, donc, quand je dis c'est pas passé, c'est qu'effectivement, quand j'ai commencé à démarcher pour ce qui était à l'époque, non pas Dans l'ombre de Paris, mais Si loin du soleil, c'était le premier titre, voilà, du premier chant de La Dernière Geste. Ouais, j'ai pris pas mal de c'est bien écrit, c'est pas le problème, mais on sait pas quoi en faire de ton truc. Et clairement, ils savaient pas quoi en faire de mon truc. Parce que de fait, en fait, c'est de la fantaisie, mais c'est pas du Medfan, très loin de là. C'était mine de rien il y a suffisamment d'années, puisqu'on parle de 2015-2016. Donc, en plus, c'était ultra féministe avec un propos anti-culture du viol avant MeToo. Clairement, là, les gens peuvent être, mais non. Et en plus de ça, il y avait un personnage non-binaire au milieu du décor. Et en plus, ça ne rentrait même pas dans les cases de la fantasy classique. Donc, je crois que j'avais tout faux. J'avais tout faux, sauf que du coup, bah, j'ai skippé l'éditeur. Et j'ai commencé en auto-édition.
D'accord.
Voilà. Donc, quand je dis j'ai triché, c'est que oui, j'ai commencé en auto-édition. Et à l'époque, au moment où j'ai auto-édité Si loin du soleil, il y avait pourtant une éditrice qui avait mon bouquin sur sa pile à lire. Mais alors, clairement, elle avait lu le synopsis, elle avait fait « ça a l'air nul ». Voilà. Enfin, peut-être pas « ça a l'air nul », mais clairement, elle n'était pas convaincue. Okay. Et elle avait, elle s'était dit « je le lirai dans 6 mois ou dans 1 an, enfin quand j'aurai le temps, au cas où je regrette peut-être ». Et je l'ai auto-publié. Et là, elle a vu 300 personnes l'acheter en un week-end. Et elle s'est dit « ah ». Et ensuite, elle a vu une cinquantaine de commentaires popés sur les divers... parce que c'était que en e-book, du coup, sur les diverses librairies en ligne, en mettant 5 étoiles, j'ai adoré le livre en 24 heures. Mm-hmm. Elle a fait « ah mm-hmm. !» Et là, elle l'a remis sur le dessus de la pile.
Ouais.
Et c'était Audrey Holouette. Voilà. Et effectivement, quand elle l'a lu, elle a dit « mais moi, je prends mm-hmm. !» Mais okay. Je prends tout de suite. Effectivement, ça ne casse dans rien, ça n'a aucun sens, mais je prends, et puis d'ailleurs il y a déjà des gens qui y croient, puisque voilà. Ensuite on a eu quelques péripéties, et finalement c'est sorti en 2019. Mais du coup en fait, quand je dis que j'ai triché, c'est qu'en fait c'est le fait que les lecteurs aiment, et que les lectrices particulièrement, d'ailleurs, faudrait dire c'est les lectrices, hein, qui étaient de loin les plus nombreuses et les plus dithyrambiques, en fait c'est elles qui ont prouvé que ça pouvait marcher. Et du coup, ben, en fait quand Audrey s'est dit « ah, mais attends, s'il y a tant de gens qui aiment, peut-être que moi, je vais aimer aussi. » Et du coup, elle a fait confiance à ses lectrices d'auto-édition. Et elle l'a lu, et là, elle a dit « banco ». Donc, c'est pour ça que je dis « j'ai triché ». J'ai triché parce que j'ai prouvé que je pouvais avoir un lectorat, finalement, avant de réussir à décrocher un éditeur. Et aujourd'hui, je suis chez HUSF, et du coup, maintenant, Jérôme et Audrey, pour le coup, une fois que j'ai ouvert la porte, on me dit « bah, banco, t'écris ce que tu veux, ça ». Ça passera. Du coup, je peux présenter des projets bizarres maintenant. Ça, c'est pas grave.
D'accord.
C'est très vrai tout ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, l'éditeur fait beaucoup. Une fois qu'on a, on a une relation de confiance avec l'éditeur, on peut tout faire. D'ailleurs, en fait, moi, le premier livre que j'ai fait éditer, c'est L'Empire électrique. J'étais venu ici aux Imaginales. En 2016, je crois, avec mon livre, c'était un fix-up, c'est-à-dire plusieurs histoires, hein, 6 histoires. Alors en fait, c'est pas, à chaque fois, c'est pas le même héros, parce que c'est un personnage de la littérature populaire qu'on connaît, mais il est uchronisé, vous comprenez, parce que Napoléon a gagné la guerre. Je me disais, mais qui va acheter ça? Personne va acheter ça. Et je suis allé voir, en fait, je me suis dit, allez, le Bélial, c'est à peu près la ligne éditoriale la plus proche que je puisse voir. Donc j'avais pris rendez-vous avec le Bélial. Et ils n'étaient pas là. Alors, je sais pas, j'ai jamais su pourquoi. Peut-être qu'il avait eu un empêchement quelconque. Mais du coup, bah, je me suis trouvé face aux gens de Bragelonne. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que quelqu'un de Bragelonne lise et me dise « Ah bah c'est parfait pour Bragelonne, ça n'a rien à voir avec ce que faisait Bragelonne dans ma tête, du moins. Mmh. » Et en fait, une fois que cette histoire a été acceptée, en fait, j'ai eu la porte ouverte pour tout le reste. Comment un roman de fantasy, en fait, où on est plutôt dans la mythologie, avec des histoires bizarres d'esclaves pas de problème. Et là, récemment encore, du coup, j'ai échangé avec Claire ces derniers mois, la directrice de Bragelonne, à propos du livre qui va sortir en février 2022, qui s'appelle « Le fleuve électrique ». Et je lui ai pitché de la façon suivante. Je lui ai dit, voilà, en gros, bah, c'est toujours dans mon univers, mais ce sera en Afrique. Et ce sera pas n'importe où en Afrique, ce sera au Congo. Mais bon, pas le Congo belge, hein, parce que dans cet univers, il n'existe pas. Donc, tu sais, le Congo, où il y a eu des millions de morts, où il y a eu des mains coupées, le colonialisme, c'est ce que le colonialisme a fait de pire. Mais je voudrais quand même un roman d'aventure, avec des codes, avec des aventuriers dans la jungle. Oui, c'est très casse-gueule, mais en fait, je voudrais faire un roman d'aventure qui digère tout ça, et qui ne se fout pas de la gueule du lecteur. Et au passage, je voudrais réécrire des poèmes de Rimbaud, mais voltaïques, parce que Rimbaud, c'est un personnage de mon livre, Et du coup, je voudrais reprendre des poèmes de Rimbaud et faire comme si Rimbaud avait continué à exister après son amputation et avait commencé à écrire des poèmes où il parle de l'Afrique et de la technologie voltaïque de mon univers. Mmh. Ça te pose un problème ? Non. Et je pense que voilà, quand on a un éditeur en fait, avec lequel on a une relation, une vraie relation, alors je dis éditeur, mais en fait, c'est comme tu l'as dit, souvent c'est pas une seule personne, hein, c'est toute une équipe. Mmh. Parce qu'un éditeur, notamment Bragelon, hein, c'est 50 personnes, Bragelon. Donc j'ai une relation avec, pas 50 personnes, mais avec 10, 12 personnes. Hein, et cette relation, c'est, voilà, elle s'affermit avec le temps. Et elle permet de faire des choses que je pense effectivement qu'un auteur ou une autrice débutante, en fait, peut pas se permettre. Mmh. Et c'est dommage, parce qu'on devrait effectivement laisser la chance à toutes sortes de récits sans tenir compte d'une quelconque étiquette.
Mmh. Alors, donc Victor nous a parlé de son projet. Alors, dans votre shaker à imaginaire, est-ce que vous avez d'autres choses là qui sont en train de bouillir dans la marmite et qui vont sortir? Alors bon, Morgane, toi, il y a la suite de la geste, puisqu'il y a 5 tomes finalement. Donc,
il y en a toujours 5.
Pardon ?
Il y en a toujours eu 5.
Oui, oui, mais justement, pour l'instant, ils ne sont pas encore écrits tous les 5. Donc, je pense que pour l'instant, tu es en train de travailler sur la suite, je suppose.
Oui, mais en fait, alors je suis en train de travailler sur la suite et plus, parce que du coup, j'ai aussi l'album des musiques.
Oui.
Parce que je peux quand même composer les BO de mon propre univers, ce qui est quand même très, très cool, alors je le fais, puisque je peux. Voilà, je le fais. D'ailleurs, j'espère un jour donner le concert de la dernière geste aux Imaginales, j'aimerais bien.
Ça doit pouvoir s'organiser.
Ce serait quand même vachement cool. Voilà. Puisque je peux, encore une fois, bah, autant le faire. Et puis j'ai du coup la suite de la dernière geste, ça va m'occuper quand même, mais j'ai envie aussi d'écrire d'autres choses en parallèle, et notamment j'ai envie de parler de mon pays, parce que je suis bretonne, et en fait ce qui est très amusant justement, c'est que on est dans une période, tu disais, on adapte beaucoup les mythologies et les légendes bretonnes, je les vois un peu à toutes les sauces. Sous divers formes, et chacun en fait reprend et fait son petit mélange avec, et du coup en fait j'avais justement envie de taquiner et de repartir bien dans la source, bien exactement commencer un Korrigan avec tous les codes des contes de quand moi j'étais petite qu'on racontait à Léa la Châtaigne, et de Langkou qui est exactement Langkou et qui est pas Langkou version de bidule ou de trucs ou de choses, mais en fait Langkou de la légende bretonne, en fait justement de, à la place de repartir aux sources. Mais parce que je peux le faire, je vais le faire en 2022. Genre vraiment avec des gamins de 2022 et des gens de 2022 confrontés à ça. Mmh. Parce que c'est beaucoup plus drôle. Voilà.
Très bien.
Alors moi, le prochain, ça s'appellera Barbie contre les vampires.
Tout un programme.
Oh, mais oui. C'est vendu, là, c'est déjà vendu.
Après le Tamagotchi, on a Barbie.
Voilà. Et peut-être, je ne vais même pas vous expliquer de quoi ça parle. Le titre, c'est tout, moi, je n'ai pas le temps.
Mais c'est bon, on prend déjà, en fait.
Donc ce sera bon, une histoire de vampires, mais futuriste, avec des vampires qui font de la télé-réalité. Et Barbie qui est une sorte de femme tentatrice mystique avec le sang empoisonné qui tente les vampires pour les tuer et se faire beaucoup de plaisir en les tuant. Ouais.
Très bien. Léo ?
Du coup, moi je fais plein de trucs en même temps tout le temps, mais j'en ai déjà parlé. Alors j'ai parlé de mon livre argentin et j'ai parlé tantôt d'un coup avant de mon feuilleton de fantasy sur 10 ans. Alors je vais plutôt vous parler d'un livre que peut-être j'écrirai pas, mais qui m'intrigue. En fait, une chose sur laquelle j'aimerais travailler, mais ça va me prendre beaucoup de temps, c'est pourquoi dans l'histoire de la science-fiction française, on fait autant d'efforts pour nous distinguer des ufologues. C'est une façon de présenter ça. C'est pourquoi est-ce qu'on dit, quand on se réunit entre nous, on dit « oui, mais nous, on n'est pas eux ». Nous, on n'est pas ces gens bizarres qui pensent qu'il y a le trésor des Templiers et tout ça. Alors qu'en réalité, dans l'histoire de la science-fiction française, c'est juste et totalement nous. Et il y a un continuum complet, en fait, depuis le matin des magiciens, entre la science-fiction qui se veut rationnelle et scientifique et détachée de ces trucs-là, et ces gens, comment faire, voilà, cette frontière mobile. Et ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que, et c'est aussi pour ça que je ne sais pas si je vais faire ce livre, c'est que ça m'a beaucoup frappé que toutes les théories du complot, c'est des récits de SF. Et du coup, je pense qu'il y a un lien quand même ultra fort entre cette chose qui nous rassemble dans le fandom de l'ASF, qui sont ces récits qu'on en partage, et cet imaginaire paranoïaque, en fait. C'est que moi, les théories du complot, je les trouve vachement intéressantes en termes narratifs, c'est juste que le gros problème, c'est d'y croire, en fait. Et voilà. Et donc, du coup, je me disais qu'il y a peut-être un truc à aller creuser, à aller sortir là-dessus, parce que vraiment sur Powell's, Le Matin des Magiciens, tout ça, c'est sur comment est-ce que la SF française est née à nouveau après la Deuxième Guerre mondiale, et comment en réalité ça a aussi engendré ce truc-là en même temps, et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à regarder ça en face, enfin, ou au moins le questionner. Voilà. Mm-hmm. Je ne sais pas si ça va être un truc avec plein de choses dans le shaker, et surtout je pense que je ne vais jamais le faire, donc c'est pour ça que je suis content de vous en avoir parlé. Je suis libéré de la tâche de le faire, on va tous y réfléchir collectivement, et puis voilà. Merci.
Voilà, bah écoutez, je pense que ça nous servira de conclusion, en plus avec maintenant les livres dont on parle, mais qu'on n'écrit pas. C'est un concept. Donc, il est 19h, donc on est arrivé à la fin du temps qui nous était imparti. Donc, je vous remercie tous les quatre pour vos interventions très, très intéressantes. D'habitude, j'ai toujours pour coutume de dire, bah, allez les rencontrer à la Bulle du Livre, mais là, c'est les Bulles du Livre et les librairies à différents endroits. Donc, toi, tu es où ?
Je suis dans la tente à côté de la cathédrale.
Très bien.
Je pense que c'est le plus simple pour définir.
Oui, tout à fait.
Moi, je suis au parking qui est là-bas derrière, le parking Cézanne, c'est ça qu'on dit ?
Oui, donc ici...
Clémenceau,
donc juste derrière ici, d'accord ?
Moi, je suis dans la tente derrière Victor.
Je suis au parking Clémenceau qui est à côté de l'hôtel de police.
Ah, j'ai vachement mieux renseigné.
Ouais, t'as vu, hein.
Voilà. Ouais. Donc finalement, grosso modo, vous êtes sur deux lieux. Donc si vous avez envie de les rencontrer, n'hésitez pas. Allez les voir, allez discuter de leurs livres, achetez-les. De toute façon, ils sont tous hyper intéressants. Et donc moi, j'adore cette notion de shaker de l'imaginaire. Bousculez les gens, allons-y, tant mieux. Et merci à vous. Et merci au public pour son attention.
Merci beaucoup.